du régime chinois au sujet de la communauté minoritaire en Chine des Ouïghours. Merci d'écouter RFI, les 18h10 ici à Paris.
Radio G. 101.5 FM.
Hey les gars, vous vous souvenez le film Mansa qu'on a vu?
Ouais, je sais, j'avais dit que c'était trop cool, mais la fille qui se fait violer dans le vestiaire, ça m'a choqué. Je revois les images, je m'énerve pour rien, même en cours. Hein. Depuis, j'ose plus parler à une fille. Mais bon, ça je vous le dirai jamais, vous allez trop vous foutre de moi.
Ce qu'ils regardent, ça nous regarde tous. Nos conseils pour les protéger sur csa.fr.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Et ça y est, elles sont en train de rentrer, une à une dans le studio. On a mis de la paille pour l'occasion. On en a parlé toute la semaine. Un berger est avec nous ce soir. Bonsoir Gaëtan.
Bonsoir.
Ça va?
Ça va, ça va.
Pas trop impressionné par l'exercice du micro? Ça te change un petit peu en termes de technologie?
Ça change du cadre de travail que j'ai habituellement.
Oui. Mais t'as quand même un peu l'habitude des médias, puisqu'on t'a pu te voir en vidéo, dans la presse.
Un petit peu, oui. Un petit peu sur Internet, un petit peu à la radio, mais c'était dans le cadre de mon travail, donc c'était en enregistrement et non en direct. Un petit peu sur papier, mais c'est pas pareil.
Il est parti, ça y est, fait son émission. Est-ce que les 2545 brebis vont pouvoir rentrer dans le studio, penses-tu?
Ça va être compliqué, je pense. Ouais, un petit peu plus de place.
Je pense aussi, on va laisser rentrer celles qui peuvent et les autres, on les laissera attendre dehors. Tu es avec nous ce soir pour nous parler de ton activité pastorale. En effet, tu passes 6 mois de l'année dans les hauts alpages pour garder un troupeau de brebis. On a cité le chiffre juste avant. Tu nous parleras aussi des possibilités d'activité pour la suite de ton parcours. En Anjou ou dans le secteur, au Pays de la Loire, Bretagne, tu veux t'implanter où après?
De préférence dans le Maine-et-Loire. Dans mon pays natal.
Dans le terre-terre.
L'endroit que je connais le mieux, quoi.
Oui, c'est sûr. Tu n'es pas tout seul ce soir, car avec nous, en studio, Liv Vincendo. Bonsoir, Liv. Dans le micro, hein, bien prêt.
Bonsoir.
Oh, t'as une voix toute petite timide. T'es habituée, toi aussi, pourtant, aux médias?
Oui, ça va.
Faut que tu te rapproches un petit peu du micro, vas-y, n'aie pas peur.
Bah, avec les masques, en plus.
Donc, Liv, toi, tu es vigneronne en Anjou et tu utilises déjà un petit peu les animaux pour certains travaux viticoles, je crois.
Tout à fait, oui. Et les chevaux.
Pour faire quoi les chevaux?
Pour travailler le sol.
Évidemment, bien sûr.
Et puis j'espère vraiment bientôt les brebis, mais voilà, on attend Gaëtan.
Voilà, tu réfléchis à travailler avec un berger, pourquoi pas Gaëtan, si les planètes s'alignent dans le bon sens, pour l'entretien des parcelles de vignes. Pendant ces 50 minutes, nous entendrons aussi le Graal. Alors le Graal, c'est le podcast qui répond aux auditeurs qui se posent des questions. D'ailleurs, si vous nous écoutez de chez vous ou sur un smartphone, vous pouvez utiliser le chat sur le site internet pour réagir en direct à l'émission. Je vois vos messages qui défilent sur mon écran d'ordinateur juste là. Oui, Liv, non, c'est sur notre page, t'inquiète pas. Donc oubliez les PB, Radio G et compagnie. Maintenant, c'est simplement radio-g.fr. Les agitations locales et culturelles en Maine-et-Loire, c'est maintenant, c'est tout de suite.
18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
Et comme chaque jeudi, Alex nous fait ses chroniques Les Brèves Angevines, toutes les actus de l'agglomération d'Angers sur le 101.5 FM.
Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode des Brèves Angevines qui seront consacrés ce jeudi aux actualités musicales angevines. On va parler jazz, électro, rap et même chant de Noël. Et c'est de circonstance en cette fin d'année. Le groupe des Compagnons de la Tourlanderie sortent d'ailleurs pour l'occasion un nouvel album pour célébrer Noël. Ce groupe de choristes originaires de Chemillé en Anjou s'est formé il y a plus de 60 ans et publie donc leur 16e projet en commun. Fait notoire, 5 titres de l'album seront diffusés jusqu'au Vatican, puisqu'une radio locale interviewe leur producteur italien Fluvio Mancini lors d'une émission qui sera retransmise le 25 décembre prochain. Des Mauges jusqu'à la ville du Pape François, la musique des Compagnons de la Tourlanderie fera donc du chemin avant la fête de la Nativité. On quitte la région choletaise maintenant pour se rendre dans le centre-ville d'Angers et plus précisément au Grand Théâtre où se produira le groupe de jazz The Fat Boys. C'est l'association Jazz pour tous qui organise le concert du groupe franco-suisse ce vendredi 3 décembre prochain dans ce grand lieu de culture de la place du ralliement. Après la nuit du jazz chante Broadway au théâtre Chanzy le 21 novembre dernier, c'est donc le retour du jazz en concert à Angers, un rendez-vous immanquable pour tous les amateurs de ce style de musique. L'artiste angevin Vapa a remporté ce dimanche 27 000 euros en vendant 3 de ses titres en NFT sur la plateforme Pianity. C'est d'ailleurs le morceau viscéral qui a récolté la plus grosse somme avec 13 000 euros. On va passer évidemment sur l'explication des NFT, ça prendrait trop de temps, mais en gros ce sont des crypto-monnaies qui rémunèrent les artistes et les œuvres musicales. Ce musicien angevin aux influences électro a donc été récompensé par ce travail de longue haleine qui l'avait notamment amené à travailler sa musique jusqu'en Allemagne. Et après cette grande étape franchie ce week-end, l'artiste local se produira au Transmusical de Rennes ce vendredi 3 décembre. Il prépare son show depuis plusieurs jours au Shabada avec l'angevine Perrine Drouillet qui prépare ses visuels de live. Deux des rappeurs les plus connus d'Angers, Odor et Aztec, sortent un nouveau morceau en duo qui sortira ce soir à minuit. Le featuring des deux figures montantes du hip-hop angevin est un extrait du futur projet d'Odor, disponible le 10 décembre prochain. Un titre qui devrait promettre et surtout allier deux styles de rap et de flow très différents. De quoi promouvoir comme il se doit la future mixtape d'Odor nommée Adrénaline. Voilà, c'en est tout pour les brèves angevines. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique des actualités locales. Je laisse la main à Pierre Benoît pour la suite de Topette.
Eh bien merci Alex, et puis t'as oublié de dire qu'on te retrouve avant mercredi prochain pour la Minute des Dalleux. Et maintenant tout de suite dans Topette, et bah si ça vous gêne, c'est la même.
L'invité de Topette sur Radio G.
Personne à la ref, même pas la personne concernée, quoi. C'est fou. Gaëtan, la même.
Oui, Gaëtan si, même. Si, si, c'est l'habitude, pardon.
C'est l'habitude. Oui, pardon. C'est l'habitude des jeux de mots, des mauvais jeux de mots.
Les deux.
Un petit peu des deux. Bon, t'es servi du coup. Gaëtan même, 27 ans, bientôt 28, je me trompe pas.
C'est ça.
Berger saisonnier dans les Alpes, mais tu es angevin et tu songes à t'installer avec ton troupeau ici dans la région. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure en introduction. Alors avant de nous expliquer comment ton activité peut s'insérer dans le tissu économique de nos contrées, oui, j'utilise des termes très techniques, j'aimerais que tu nous partages tes expériences, celles de ton métier, parce que finalement, enfin concrètement, à part dans les contes, on pense pas que berger, ça existe encore aujourd'hui. Alors Gaëtan, qu'est-ce qu'être berger en 2021 ?
Alors berger en 2021, bah sur le principe, ça n'a pas vraiment changé de ce que c'était avant et de ce dont on entend parler dans les contes, donc c'est un principe assez basique. On garde des moutons. Donc c'est-à-dire qu'on accompagne les troupeaux au pâturage, on les emmène manger à l'endroit où on veut qu'elles mangent, on les soigne, on les protège, et après, c'est plus d'un point de vue technique que le métier a évolué, parce qu'on s'est adapté aussi aux pratiques agricoles modernes, aux équipements, mais ça reste quand même un métier, on va dire, rustique et séculaire.
Alors rustique, séculaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'avez pas d'électricité dans les Alpes ?
Pas partout.
Pas partout.
Moi par exemple je dispose de l'électricité dans une de mes cabanes, parce que j'ai deux cabanes en fonction de la saison et de l'endroit où je me situe sur la montagne, et j'ai l'électricité que dans une seule des deux cabanes.
Et en termes de chauffage, tout ça, enfin c'est l'hiver, c'est l'été, comment ça se passe la saisonnalité?
Alors contrairement à la douceur angevine, c'est un climat qui est plutôt changeant, on va dire, et que l'été dure du 14 juillet au 15 août à peu près, avec des températures qui vont atteindre le 20 degrés pour les plus fortes chaleurs. Donc on est plus sur un climat que les angevins pourraient appeler automnal, voire hivernal, avec de la neige qui peut tomber à tous les mois. Donc le chauffage, ça dépend des cabanes aussi. Je l'ai que dans une seule cabane, en début de saison et en fin de saison.
En fait, des fois, tu reviens en Anjou, par exemple, en fin septembre ou début octobre. Par chez nous, il ne fait pas trop mauvais, c'est ce qu'on appelle le l'été indien. Mais toi, tu as déjà connu l'hiver là-bas?
Ben oui, oui, oui. Par exemple, l'année dernière, je suis redescendu de montagne le fin septembre de manière prématurée parce qu'on était coincé dans 60 cm de neige.
Ah oui, 60, on n'est pas près de les voir, les 60 cm de neige par chez nous. Donc dans les Alpes, pourquoi dans les Alpes? Qu'est-ce que tu fais en fait côté là-haut?
Alors dans les Alpes, d'une part parce que je me suis formé au métier là-bas, donc ça m'a permis d'avoir un contact professionnel et de trouver du travail dans cette région-là. Et les Alpes, c'est surtout qu'en fait, aujourd'hui, le métier de berger est exercé avant tout dans des régions montagneuses, un petit peu dans le sud de la France, dans les plaines l'hiver, mais beaucoup moins qu'avant. Et c'est simplement parce que c'est la manière la plus optimale de pratiquer l'élevage dans ces régions-là.
Et comment s'est née cette vocation chez toi de vouloir aller dans les Alpes garder des brebis? Tes parents sont agriculteurs?
Pas du tout. Mes parents ne sont pas du tout issus du milieu agricole ni rural. Et la vocation, j'avouerai que je ne sais plus pourquoi je veux faire ce métier-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été le déclencheur. La passion des bêtes et puis des grands espaces et de la montagne, je pense, parce que je pratiquais la montagne par la randonnée tous les étés, mais à part ça, je ne vois pas.
J'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette phrase quelque part dans un article ou peut-être une vidéo sur Internet.
C'est possible.
C'est possible. Donc en tout cas, tu es devenu berger, même si tu ne sais plus pourquoi tu as voulu faire cette profession. La question qu'on peut se poser, c'est comment on devient berger? Il y a des écoles de bergerie?
Alors oui, il y a encore des écoles de bergers qui existent. Il y en a même plusieurs en France. Donc moi, j'ai suivi un cursus scolaire relativement classique, avec un bac technologique agricole, un BTS en production animale en agriculture aussi. Et après, je me suis orienté sur une formation de berger dans les Alpes, du coup. Là.
On a Bruno sur le chat qui fonctionne bien, du coup. C'est juste de garder les brebis ou tu fais du fromage aussi avec?
Alors moi, le troupeau que je garde, c'est pas du tout pour la production fromagère. C'est uniquement pour la production d'agneaux bouchés et du coup, les brebis de réforme finissent en boucherie aussi. Mais c'est pour la viande, parce que 1500 brebis à traire, ce serait impossible.
Et du coup, ton métier s'arrête juste à les garder ou tu participes aussi à la suite de l'élevage?
Non, moi, mon métier, c'est vraiment sur la saison d'été, c'est uniquement le gardiennage. En fin de saison, il peut m'arriver de participer un peu à l'agnelage, mais normalement, ça se fait dans les bergeries avec du coup un autre salarié parce que ça correspond aux périodes où je suis encore en montagne.
Tout à l'heure, tu nous as parlé de la rudesse du métier. Tu nous as aussi dit qu'il y avait de la modernité qui était arrivée. Toi, de ton point de vue, les difficultés et les gros kiffs, ce sont lesquels?
On va commencer par les gros kiffs parce que c'est le plus important. C'est avant tout le cadre de vie qu'on a. On a quand même, on est dans des grands espaces. Moi, je travaille sur une montagne qui fait 800 hectares. Un joli cadre de vie parce que le paysage est plutôt sympathique. Après, ça nous permet de nous maintenir en forme avec de l'activité physique et sportive régulière et journalière. On a quand même des belles cabanes aujourd'hui, donc c'est un petit peu comme un rêve de gosse, quoi, d'être là dans la cabane au fond du jardin. Et les gros inconvénients, enfin du moins les points un peu plus durs du métier, c'est plus le relationnel au public et aujourd'hui la problématique du loup.
Attends, tu parles de public, quel public?
Les randonneurs. Alors nous, souvent on les appelle les touristes, c'est un petit peu péjoratif dans notre langue. Mais oui, on a disons qu'on peut avoir un relationnel compliqué avec les autres usagers de la montagne.
Eric, il demande sur le chat si ça sent la brebis. Non, Eric, c'était une blague. Il n'y a pas vraiment des brebis qui sont rentrées dans le studio. Rassure-toi, merci Gaëtan. On va rester avec toi, évidemment. Toujours à l'écoute de Topette sur Radio G. Tout à l'heure, on va te demander c'est quoi la suite, parce que là, tu es dans les Alpes, mais tu veux revenir dans le coin. Mais pour faire quoi, finalement? Juste avant, on écoute un titre. Alors, c'est un peu évident, mais c'est Jean Ferrat. La montagne.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver? Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver.
Oui, non, chanter, c'est pas forcément une bonne idée. Il y a Bruno qui nous dit « Heureusement qu'on a échappé à Michel Berger ». Oui, ça aurait pu aussi. Parce que vous l'avez compris, nous sommes avec un berger dans Topette.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Et je rassure Michel, oui, nous avons tous le masque dans le studio et nous sommes à bon effectif. Donc, Gaëtan, t'es avec nous, tu nous as témoigné de ton parcours de berger, qui est quand même un métier assez singulier, en tout cas dans, par chez nous. Tu nous as parlé de ton parcours, de pourquoi tu allais dans les Alpes. Mais maintenant, la suite. Parce que, mis à part rester reclus dans les montagnes 6 mois de l'année, quel est l'avenir d'un berger, finalement ?
Alors, il y a plusieurs possibilités. Après, moi, le choix que j'ai fait, c'était plus de revenir dans mon pays natal, donc l'Anjou, et tout en continuant cette activité de berger, et d'autant plus en devenant éleveur, donc en m'installant, en me mettant à mon compte, en ayant mon propre troupeau. Parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que quand je suis en montagne, je suis salarié. Je travaille pour un patron, pour un autre éleveur. Donc, je suis ouvrier agricole, en quelque sorte. Et là, pour moi, à l'avenir, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir mon propre cheptel, donc en association avec une amie. Et du coup, de changer une petite chose aussi, c'est qu'on ferait sûrement de la transformation fromagère, donc de la traite.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux dire aux auditrices et auditeurs, qu'est-ce qu'il y a comme activité avec l'élevage de brebis ? T'as la viande, la laine aussi ? Qu'est-ce qu'il y a?
Alors, en France, la laine, c'est des tout petits pôles de compétences. Il y a quelques associations, il y a quelques filières, mais c'est une filière qu'on a complètement perdue. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, un éleveur de brebis, la laine lui rapporte très peu d'argent. C'est même pas rentable du tout, des fois, de faire tondre les bêtes, quoi, en quelque sorte.
Alors, autant dans les Alpes, ça peut être assez normal de voir des bergers garder des troupeaux, avoir des activités...
Pastorales.
Pastorales, c'est ça le terme. Mais du coup, par chez nous, est-ce qu'il y en a beaucoup déjà qui ont des cheptels, comme tu dis ?
Alors, ça existe par chez nous. L'activité pastorale existe sous le nom d'éco-pâturage. On en voit un petit peu aux alentours d'Angers. Mais la pratique que je voudrais mettre en place, c'est une approche différente de ce qu'on appelle l'éco-pâturage, parce que là, pour l'instant, les brebis qu'on voit, elles sont parquées dans des clôtures, on les laisse et puis on les enlève quand il n'y a plus d'herbe. L'idée du projet que j'ai, c'est plutôt de faire le même principe que ce que je fais en montagne, donc c'est de les emmener chaque jour à la garde, donc en étant présent sur place avec des chiens, et en les emmenant pâturer en libre pâturage, où c'est simplement le chien et le berger qui permettent de faire un office de clôture pour avoir une approche différente des écosystèmes et un impact différent aussi sur les écosystèmes, pouvoir accéder à des lieux qui ne sont pas clôturables, et donc réinventer en fait un petit peu le métier, réinventer l'éco-pâturage en se basant sur des savoir-faire qui existent depuis des milliers d'années.
Alors, Liv, je te pose également la question. C'est pas retombé un peu trop dans la tradition, justement, l'éco-pâturage ? Liv ou Gaëtan ?
Bah, moi, je trouve qu'il y a un petit côté marketing derrière tout ça, quand même.
Oui, c'est très à la mode, effectivement. On le voit sur Insta, les moutons et les vignes. Mais on voit rarement le berger, effectivement, maintenant que tu le dis.
Parle bien dans le micro, Liv.
Oui.
C'est juste ça.
C'est effectivement une on peut dire c'est une mode, ou alors c'est aussi un retour de l'animal dans la vigne, alors que on a peut-être passé depuis les années 70 beaucoup de temps à se spécialiser, et donc un vigneron est vu comme quelqu'un qui a la culture végétale mais qui n'élève pas, alors que quand tu regardes l'agriculture depuis des millénaires, il y a toujours eu polyculture, élevage, il y a toujours eu et les plantes et les animaux et l'homme avec un grand H et la nature qui travaillent ensemble et qui forment un système, justement. Donc le fait de spécialiser et de faire que des plantes, ça n'a pas beaucoup de sens.
Alors Gaëtan, t'évoquais aussi l'avantage de, par rapport à l'éco-pâturage, d'accéder à des lieux qui sont un peu inaccessibles, par exemple peut-être pour une tondeuse ou un tracto, je sais pas quoi. Il y a d'autres avantages à l'éco-pâturage ?
Alors il y a des avantages d'un point de vue agronomique. Quand on, par exemple, quand on fait manger des parcelles qui sont vouées à d'autres cultures, donc la vigne en l'occurrence, on en parlait, ça permet aussi d'apporter de la matière organique par la présence des bêtes qui mangent et défèquent sur les parcelles. Donc c'est ni plus ni moins que de l'engrais naturel et finalement quelque chose qui va dans le sens même du fonctionnement de la nature. Et ça permet aussi de maintenir la végétation à une taille, on va dire, moins élevée que si on la laissait en friche, et ça évite le passage de tracteurs, donc l'utilisation d'énergie fossile. Enfin, c'est quelque chose de sensé et de logique.
Dans les vignes, c'est surtout que autant on arrive à bien gérer l'herbe qui est dans les rangs de vigne, autant ce qu'on appelle le cavaillon, c'est-à-dire la partie qui est vraiment entre les ceps de vigne, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Alors ça se fait en tracteur, mais même mon prestataire qui vient avec un cheval de trait, dans ma très vieille vigne de 1941, celle qui s'appelle le Carré du Puy, que tu connais un peu, même lui m'a dit ce serait intéressant que tu fasses passer les moutons, les brebis avant mon passage. Donc c'est d'abord les brebis, après le cheval, et après ça marcherait, voilà. Donc c'est vraiment complémentaire à nos travaux agricoles autres.
On pourra même en parler un peu plus largement à propos de tes activités viticoles, c'est comme ça, Liv, qu'on dit.
Oui.
Tu es vigneronne, je rappelle, je ne me trompe pas sur les termes cette fois. Par rapport à l'éco-pâturage, donc on disait que c'était un petit peu marketing, et aussi... c'est une question vraiment très bête, mais les véganes, est-ce qu'il y a, aussi des gens qui sont contre l'éco-pâturage, par exemple ?
Bah, vu que...
Enfin, les véganes ou les agriculteurs traditionnels ?
Oui, de ce que je sais, des mouvances un peu radicales, si on peut dire, auxquelles est confrontée l'agriculture, il y a certaines personnes qui sont contre le fait qu'on élève des animaux tout simplement, donc même si, finalement, le pastoralisme, donc qui comprend l'éco-pâturage, est la manière la plus respectueuse du bien-être de l'animal de produire de la viande, du lait et les produits animaux qui s'en suivent. On aura toujours des gens qui vont être contre ce fonctionnement-là. Et disons que dans le milieu agricole, on peut être vu un peu comme des hurluberlus ou des charlatans ou des vieux hippies quand on fait des pratiques telles que le pastoralisme dans la vigne ou dans les vergers. Après, il faut savoir aussi que c'est quelque chose qui est... Ça dépend beaucoup des régions, parce que dans le sud de la France, par exemple, où je me suis formé, c'est quelque chose qui existe et qui a toujours existé. Et
imaginons que par chez nous, du coup, tu parlais d'effet de mode aussi un petit peu par rapport à ça, que ça se développe beaucoup. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde ? Et si oui, sinon, comment pérenniser un emploi comme le tien ?
Alors là, c'est des questions qui m'échappent un petit peu, peut-être, mais je pense, pour moi, de mon point de vue, simplement, je pense qu'il y a largement la place pour s'installer, que ça bénéficierait même à des espaces sauvages qui sont en train de se refermer, des milieux qui sont en train de se détériorer, en quelque sorte. Donc, je pense que c'est une dynamique qu'il faut plutôt encourager qu'essayer de ralentir.
Et Liv est totalement partante pour adhérer à cette dynamique-là. Tu as commencé à nous en parler. On va s'y intéresser un peu plus longuement juste après. C'est dans quelques instants sur le 101.5 FM de Radio G. C'est juste après un titre que tu vas bien aimer, Gaëtan, je pense. Les Ramoneurs de Menhir avec leur reprise de la Blanche Hermine.
J'ai rencontré ce matin, devant la haie de mon champ, la Blanche Hermine.
une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. Où allez-vous, camarades? Avec vos fusils chargés, nous tendons des embuscades. Viens rejoindre notre armée. La voilà de l'enchaînée. Vive la mouette tirage. La voilà la blanche hermée. Vive bouger le puissant.
Un honneur de menhir à l'écoute de Topette sur Radio G 100.5 FM. Alors, pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est simplement une musique que Gaëtan apprécie. Rien de plus compliqué. Un petit clin d'œil quand même à Pierre et Sarah qui sont avec nous dans le studio. Et Victoire aussi, pardon Victoire. Trois personnes que vous n'entendez pas mais qui sont là et qui nous sont bien utiles. On va maintenant t'entendre, Liv, Vigneron en Anjou. Tu l'as dit juste avant la pause musicale. Tu réfléchis à la possibilité d'utiliser des brebis pour entretenir tes parcelles, notamment le carré du puits. Mais juste avant, je te propose d'écouter Cathy du 4-9 en transition. C'est une émission que je t'invite vivement à écouter. Qui parle, devine quoi, de transition écologique dans le département. Elle était avec nous la semaine dernière et nous a fait une petite présentation de ce qu'est l'éco-pâturage.
Prenons 3 minutes pour comprendre l'éco-pâturage pour les nuls. On connaissait le pâturage pour tout savoir déjà croiser des animaux dans les prés. Mais désolé monsieur de la Fontaine, bonjour veaux, vaches, cochons, couvées dans tous les champs et dans tous les prés. Mais qu'en est-il de l'éco-pâturage ? Un espace vert, les abords d'une voie ferrée, un jardin, l'espace enherbé d'une entreprise, l'éco-pâturage est depuis les années 2000 devenu, comme l'oiseau fait son nid, une petite pépite écologique à sublimer. Il faut encore en comprendre les dessous, et c'est bien là qu'il se passe quelque chose, en dessous de vos pieds. Lorsque sur la montagne, la transhumance des brebis ou dans les prés, les vaches vont paître, il se passe quelque chose de magique. Reprenons du début, lorsque sur la terre, herbes, fleurs et arbres poussent, tout ce petit monde capte les rayons du soleil et fabrique de la photosynthèse. Cette formidable réaction chimique va capter le dioxyde de carbone que nous produisons en bien trop grand nombre. Mère Nature a tout prévu, sans ce carbone, les plantes ne pousseraient pas. Elle rejette ensuite un déchet de cette usine à produire du verre, de l'oxygène. Lorsque dans un espace vert d'une entreprise ou un champ où on prend le tracteur ou la tondeuse, on utilise des énergies fossiles qui rajoutent encore du carbone dans l'atmosphère, de plus l'herbe ou les fleurs coupées ne servent à personne. Mais lorsque dans ce même espace clos, des vaches ou des moutons mangent cette herbe, les microbactéries présentes dans leur corps produisent boues et crottes que les bêtes laissent sur place. Ce qui va permettre de régénérer le sol, lui donner à manger, créant ce qu'on appelle de l'humus. Cette petite couche de litière particulièrement fertile et riche en microbes et insectes qui favorise la fertilité d'un sol et donc par enchaînement sa biodiversité. L'éco-pâturage, c'est un troupeau qui joue à la tondeuse, sans le bruit et sans l'essence, et qui en plus mange sur place. Bref, c'est un troupeau de composteurs sur pattes. Lorsqu'un troupeau se déplace ensuite, il laisse ce qu'il a mangé avec des micro-organismes décomposeurs. Il a mangé du carbone, mais il l'a redonné à ce lopin de terre pour qu'il reste dans le sol, là où est sa place. Un producteur fruitier aujourd'hui, en mettant en place un éco-pâturage, régénère son sol qui profitera à ses arbres. Il n'épandra plus de glyphosate pour que rien ne pousse autour de l'arbre ou ne passera plus avec un tracteur pour tondre l'herbe. C'est un cercle vertueux où l'on rend au sol, à la terre, ce que nous lui avons pris pour qu'elle se régénère et continue de vivre forte de toutes ces choses sublimes qui font la vie des sols et qui nous font manger et respirer. Alors, magique ou pas magique ?
Merci Cathy pour ce petit podcast. Elle devait être avec nous ce soir, mais malheureusement elle est tombée malade ou je ne sais quoi. Donc on l'embrasse, je suis sûr qu'elle est en train d'écouter l'émission. Elle avait envie de vous rencontrer, mais malheureusement ça ne s'est pas fait. Il y a Bruno qui demande sur le chat, une brebis, est-ce que ça mange du raisin ?
Alors oui, ça mange du raisin, il faut juste faire attention à la quantité qu'elle en mange parce que ça peut la rendre malade.
Et justement, la question qu'on se pose maintenant, Lich, puisque tu nous as parlé d'éco-pâturage dans les vignes, comment concilier les deux ? Si une brebis mange du raisin, est-ce que ce ne va pas être plutôt catastrophique pour ta culture, ta viticulture ?
Effectivement, on va préférer de ne pas les laisser pâturer à partir du moment où il y a des raisins dans les vignes. Et donc ça veut dire, ici en Anjou, je pense, voire même, il n'y a pas que les raisins, il y a également les feuilles, hein. On n'y pense pas, mais la vigne, pour faire du sucre dans les raisins, il y a besoin de feuilles. Et à partir du moment où la vigne démarre ou débourre, comme on dit dans le jargon, c'est au mois d'avril, de plus en plus tôt. Les brebis, il va falloir que le berger leur trouve d'autres endroits, comme par exemple les prairies qu'on a à côté des vignes, mais on va surtout les sortir des vignes à ce moment-là. Donc le but de l'éco-pâturage, c'est vraiment de manger l'herbe dans les vignes, mais en période de repos hivernal.
Tu as l'air de très bien t'y connaître en viticulture, Liv-Vincent Doux.
Petite expérience.
Non, je dis ça parce que on peut peut-être parler avant de ton domaine et de tes activités viticoles. Du coup, tu es localisé à Rochefort-sur-Loire, donc tu adoptes les bonnes pratiques agricoles, environnementales, puisque tu es en bio, tu es aussi en Déméter, je crois, tu as plusieurs certifications. Tu peux peut-être présenter ton domaine, justement, aux auditrices et auditeurs de Radio G.
C'est un domaine que j'ai créé en 2014.
C'est l'impression que tu commences toujours ça, comme ça. Ouais.
Je vais vous ennuyer, mais... donc 2014, ça veut dire 8 récoltes, 8 vendanges et donc 8 années viticoles, dont la dernière était quand même un peu sur les chapeaux de roue. Je travaille effectivement en agriculture bio et biodynamique. Hein, donc les raisins sont certifiés Déméter, qui est le label international qui certifie les pratiques biodynamiques. Et donc, on est à Rochefort-sur-Loire. Alors, c'est par rapport à Gaétan, c'est 100 mètres d'altitude. C'est le point culminant de Rochefort. Donc, on surplombe la Loire. Très beau paysage de même bocager, des prairies, des vignes, principalement du chenin blanc.
Oui, voilà. Donc, tu proposes quoi comme vin au domaine ?
Alors, de plus en plus de Crémants de Loire. Hein, on se rapproche des 100%. L'année prochaine, et aussi des Anjou blancs, donc ça veut dire des vins dites tranquilles, qui n'ont pas de bulles. Et on est sur 4 hectares et demi de vignes, mais au total, et c'est important, 8 hectares et demi de terre. Donc justement, ce n'est pas une monoculture. Il y a des prairies, il y a des haies.
Donc il y a une cohérence environnementale en fait, écologique.
Il y a encore une fois, comme on disait en début d'émission, la recherche de sortir d'une trop grande spécialisation et de cette monoculture.
Et pourquoi toi t'es en bio du coup ? C'est des convictions éthiques, personnelles, ou alors c'est plus un argument marketing ?
Là tu me cherches.
Ouais, c'est une vraie question.
Moi j'ai grandi comme ça, hein. J'ai grandi bio, j'ai été dans les premiers magasins, ça ne me rajeunit pas, dans les premiers magasins bio en Allemagne. Et donc oui, j'ai grandi en Allemagne et là c'est vrai que l'écologie, tout ce qui est jardinage, agriculture bio, c'est quelque chose qu'on a un petit peu, dès les premiers pas, on l'apprend. Et donc pour moi c'était tout à fait logique de s'installer aussi en agriculture bio.
Pour revenir du coup à l'éco-pâturage, qui est quand même le thème central de notre émission avec Gaëtan Le Berger et toi, Liv-Vincent Doux, tu travailles déjà le sol avec un cheval, une jument. C'est pourquoi ? C'est qu'il y a des contraintes d'AOP, c'est moins cher, ça permet une meilleure qualité peut-être de viticulture ? Ah.
Non, en fait, je réfléchissais sur le fait, est-ce que c'est moins cher, hein? Et ça, c'est là, on peut passer une heure, parce que ça dépend qu'est-ce que tu calcules. Donc, non, c'est d'un point de vue comptable. Le comptable va te dire que c'est plus cher de faire travailler un prestataire avec un cheval de trait que de faire passer le tracteur. Donc, ce n'est pas un argument économique, mais par contre, dans certaines parcelles, comme dans celle dans laquelle travaille le cheval, avec un prestataire qui s'appelle Fraxinus, c'est à Bushman, donc super local. C'est Fabrizio avec Toscane. Donc, il travaille chez moi. Pourquoi ? Parce que c'est la seule solution technique pour certaines parcelles. Notamment quand elles sont trop étroites pour le tracteur. Ou alors, quand il y a un dévers, alors ce n'est pas le cas chez moi, quand il y a un dévers où tu ne peux pas intervenir avec le tracteur. Donc vraiment, le cheval, c'est...
C'est génial.
C'est génial.
C'était très content.
Et puis, ça te permet effectivement de travailler plus dans les détails par rapport au tracteur. Donc, alors, maintenant, il ne travaille pas dans toutes mes parcelles. Hein. C'est une solution...
Technique, en fait.
Certaines parcelles. J'aimerais qu'il travaille sur d'autres parcelles, mais pour l'instant, on y va sur le carré du puits.
En fait, c'est une vieille parcelle. Du coup, c'était un peu plus étroit, planté étroit. Donc, le cheval doit passer, puisque le tracteur ne peut pas passer. Lui, pour revenir du coup... Une nouvelle fois à l'éco-pâturage, si le cheval c'est génial, les brebis c'est quoi ? Ça va être quoi l'utilité de faire venir paître des brebis dans tes parcelles ?
Alors le cheval il intervient un peu comme un tracteur, c'est-à-dire pour des travaux particuliers qui sont à faire dans le sol. Il enlève aussi l'herbe, hein, parce que nous en agriculture biologique on n'y pense pas, mais on passe la plupart de notre temps de maîtriser l'herbe, d'avoir exactement la bonne quantité, etc. Ça a l'air un peu banal, mais on passe beaucoup de temps à essayer de maîtriser ça. Et donc les brebis, ça permet justement de... Au lieu de venir qu'une journée pour une prestation précise, bah les brebis, elles vont manger tout au long de l'hiver. Elles vont garder l'herbe, comme disait Gaëtan tout à l'heure, elles vont garder la végétation très basse. Et ça va nous permettre, nous, quand on arrive en printemps, que ce soit avec le cheval ou avec le tracteur, de reprendre un sol assez
avec
aras.
Une végétation maîtrisée, en fait.
Avec une végétation maîtrisée, avec bien sûr une fertilisation, hein, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'animal égale fertilisation, vie du sol, donc ça, ce n'est pas anodin. Donc, il y a un côté fertilisation, mais surtout, avec le même avec le tracteur, ça va nous aider à mieux travailler.
Concrètement, Gaëtan, comment ça marche du coup ? Comment mettre ça en place dans des parcelles de vignes ? C'est différent que d'être en montagne.
Il y a différentes solutions. Donc, celle qui est beaucoup utilisée aujourd'hui, c'est la clôture. Donc, c'est les éleveurs qui viennent placer des clôtures. Donc, souvent, c'est du filet électrifié ou de la clôture en quatre filets électrifiés. Donc, c'est des clôtures mobiles qui sont assez faciles à poser selon les endroits. Et ils viennent placer leurs bêtes, ils les laissent un certain temps et ils font des rotations comme ça sur les différentes parcelles. Alors que l'autre système qui existe, donc qui est le système qui fait intervenir un berger à proprement parler, donc un gardien de troupeau, là il faut un point fixe pour pouvoir parquer les brebis la nuit et les sortir des vignes au cas où justement il y ait une intervention à faire dans les parcelles ou autre. Et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle un parc de nuit, on les sort du parc de nuit, on les emmène en parcours. Donc là, on va leur faire parcourir la vigne avec une surveillance constante. Donc ça permet aussi de se rendre compte, par exemple, quand la vigne commence à débourrer, que là, elles vont s'attaquer un peu plus aux bourgeons et du coup, les faire sauter d'une parcelle à l'autre selon les maturités et les différentes choses qui peuvent intervenir dans le quotidien. Et après, je voulais revenir aussi sur une précision sur l'éco-pâturage, donc ce qu'on disait tout à l'heure sur le maintien de l'herbe. Tout simplement, le métier de berger, c'est gérer son stock d'herbe. Le berger, en fait, il nourrit ses bêtes, donc il sait qu'il a une surface donnée et il faut qu'il gère son pâturage pour qu'il y ait tout le temps de l'herbe.
Donc en fait, là, on a deux professions, deux contraintes de professions qui sont complémentaires, puisque le viticulteur ou la viticultrice veut gérer son herbe et toi, c'est pareil, du coup, voilà. Tu gères le stock.
C'est complètement complémentaire.
Et puis il y en a, si je peux me permettre, on n'a pas que de l'herbe dans les vignes, bien sûr, ou alors on a de l'herbe très très variée. En fait, on a regardé avec Gaëtan, on a bien sûr aussi des fleurs, on a différentes herbes. Enfin, c'est très varié. Quand on le gère comme je le fais, c'est-à-dire j'ai pas semé l'herbe, j'ai vraiment laissé venir ce qu'on appelle l'enherbement spontané, qui est typique du coin, du lieu. Et donc c'est peut-être aussi quelque chose que pour les brebis, c'est agréable, il y a les plantes médicinales, enfin, voilà. Donc c'est très varié.
On parle d'herbe et transition toute trouvée pour diffuser le podcast du Graal, puisque on va parler d'herbe, mais celle qu'on peut fumer.
Question de Franck de Paris. A-t-on le droit de faire pousser du CBD ?
Oh là, Franck, on ne fait pas pousser de CBD, hein, mais du cannabis. Et là, faut pas se planter. La culture du cannabis est interdite en France, mais il y a quand même quelques subtilités. Pour le textile, les isolants ou les huiles végétales, on a le droit, à condition de ne pas utiliser la fleur de la plante. Bon, oui, c'est là que se trouve le THC, la molécule qui fait planer. D'ailleurs, pour être autorisé, la variété de cannabis ne doit pas en contenir plus de 0,2%. Par contre, pour une autre molécule produite par la plante, le CBD, la loi est plus floue pour l'instant. On a le droit d'en produire et d'en vendre, en veillant toujours au taux de THC. Mais il est interdit de dire que le CBD a des vertus thérapeutiques. C'est juste récréatif. Donc, sous certaines conditions, des professionnels peuvent faire pousser légalement du cannabis en France. Mais sur ton balcon, pas facile de mesurer le THC. Alors un conseil, évite. Et pour le CBD, vas-y doucement, on ne sait pas encore s'il est si inoffensif que ça.
De toute manière, on rappelle que la consommation de cannabis est pour le moment illégale en France. On va revenir à l'herbe qui nous intéresse du coup, celle qu'il y a dans les parcelles de vigne, et que le berger veut faire manger à ses bêtes et que la viticultrice veut éviter...
Vigneron.
Je savais que j'allais le faire de toute façon, tu me l'avais dit avant. Il nous reste à peu près 4 minutes pour conclure cette émission éco-pâturing. Qu'est-ce que vous souhaiteriez rajouter autour de cet éco-pâturage, justement, Liv par exemple, sur la pratique agricole avec des animaux aussi, parce qu'il y a les brebis, il y a les chevaux, mais il y a peut-être d'autres pratiques qui se font.
Il y a des, si on veut parler d'autres animaux qui peuvent travailler dans les parcelles de vignes, ce seraient les poules. Hein. J'ai des voisins, pardon, des collègues vignerons à Savenières qui ont fait rentrer les poules dans les vignes. Donc ça existe également. Qu'est-ce qu'on a comme d'autres animaux
Moi, j'ai vu des chèvres intégrées au troupeau de brebis. Après, la chèvre, ça demande une pratique très très rigoureuse parce que c'est un animal qui va plus facilement pouvoir faire des dégâts sur les cultures. De tout ce qui est un petit peu plus haut que l'herbe, on va dire.
Par contre, ça peut travailler sur les talus, sur tout ce qui ronce, voilà. Peut-être beaucoup plus que la brebis.
C'est plus efficace sur tout ce qui va être broussaille, donc arbustif et ligneux, et moins sur l'herbe.
Oui. Il y a les chauves-souris.
Attends, de l'élevage de chauves-souris?
Non, en fait, on parle des chauves-souris avec la LPO souvent, parce que en fait, la chauve-souris est un animal qui mange beaucoup d'insectes. Et dans la vigne, il y a quelque chose qu'on craint, enfin c'est un peu les seuls insectes qu'on craint vraiment, parce qu'il y en a beaucoup qui sont positifs, c'est les vers de la grappe. Enfin, avant ça, c'est des papillons. Et donc, les chauves-souris adorent ça. Et donc, on travaille aussi avec les... On travaille, alors c'est totalement sauvage, les chauves-souris, mais on est aussi très content quand la LPO nous dit on a intercepté les sons des chauves-souris dans votre vignoble, et donc on sait que les chauves-souris aussi travaillent avec nous. Et puis il y a quand même un animal qu'il faut absolument qu'on mentionne, même si c'est pas ton métier à toi Gaëtan, c'est la vache, enfin l'élevage des vaches, qui nous, en tant que vignerons, nous apporte tout de même le fumier, parce qu'on n'est pas même... Je pense qu'un troupeau de brebis, ce n'est pas tout à fait suffisant. Donc, de temps à autre, on travaille avec des éleveurs de Rochefort tous les X années pour apporter du fumier bio de vaches. Et là, c'est toute une histoire, bien sûr. C'est l'animal sacré, un peu de la biodynamie. Donc là, il y aura beaucoup de choses à dire. Mais pas, ils ne vont pas dans les rangs de vignes. Au niveau format, ça serait un peu compliqué avec les cornes, etc.
Et comme tu disais, Liv, tout à l'heure, en fait, il y a plein d'options possibles qui existent avec les animaux, finalement, mais ce n'est pas forcément les métiers du vigneron ou de la vigneronne. Donc, il faut des personnes comme Gaëtan pour proposer des solutions. Tu veux rajouter quelque chose, Liv ?
Non, c'est super, justement. Je voulais répondre à ça, je ne voulais pas te couper.
Eh bien, vas-y, réponds.
C'est exactement ce que je me disais en venant à l'émission. Effectivement, notre cœur de métier en tant que vigneron, c'est produire du beau raisin toute l'année pour le récolter, pour le transformer en vin. Ça, c'est un peu le cœur de métier, avec bien sûr les fonctions commerce, gestion, etc., tout ce qui va avec. Et très vite, la journée se remplit. Alors, il y a des fermes aujourd'hui qui font du vin et qui ont des animaux. et je les admire, enfin je les adule, ça existe, c'est rare, mais ça existe.
Ils n'ont plus de vie sociale par contre, ils sont très, très occupés, si, j'imagine.
Après il faut les ressources humaines en face, donc c'est une question de nombre de personnes qui s'en occupent et de compétences. Moi personnellement, effectivement, je ne peux pas improviser le métier d'éleveur et je préfère autant coopérer avec des éleveurs.
Justement Gaëtan, tiens, en 20 secondes, quelle solution vas-tu proposer chez Liv? Par exemple, je ne dis pas que tu vas avoir un contrat chez Liv pour faire de l'éco-pâturage.
Dans
la configuration, bah, qu'est-ce que tu proposes?
Tout simplement, comme on disait, un pâturage hivernal, donc sur la période de repos de la vigne, pour que les bêtes que j'aurai, qui sont normalement au tarissement l'hiver, puissent profiter des herbages, tout en profitant à la vigne.
Ok, merci pour ces 20 secondes de conclusion, Gaëtan. Liv, c'est déjà fini, c'est passé très très vite hein, finalement. Alors Liv, si on veut te suivre, découvrir ton domaine, puisque tu as des origines allemandes, donc il y a aussi une petite particularité originale dans ce que tu proposes avec ton domaine. T'as un compte Instagram, un site internet, domainevincentdo.com.
C'est ça.
.com.fr. Et bah Gaëtan, sinon il y a une super vidéo sur la chaîne YouTube Peter de Clercq qui existe pour découvrir ton métier de l'intérieur. Merci aussi aux autres qui étaient là dans le studio. Pierre, Victoire et Sarah, merci à vous d'être restés jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine sur le 101.5 FM. Dans quelques instants, c'est l'Europe dans le micro. Et là, vous l'entendez derrière. On se quitte avec un titre, une petite dédicace à Liv. C'est Take On Me de AA. Topette.
Bienvenue à l'émission L'Europe dans le micro. Je vous présente, je m'appelle Katharina et je suis volontaire autrichien au Corps européen de la solidarité à l'association Parcours le monde à Angers. Notre association a pour objectif de promouvoir la mobilité à l'international et elle propose un suivi personnalisé et gratuit aux jeunes de 16 à 30 ans et leur permet de construire leur projet de mobilité à l'étranger. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter Titouan, qui est parti en volontariat européen. Je vais maintenant lui laisser la parole pour qu'il se présente et qu'il nous raconte sa mobilité.
Je m'appelle Titouan Aubry, j'ai actuellement 20 ans, je suis natif de la Manche. Avant d'être en CES, j'ai fait une licence de gestion et de comptabilité, un TCG plus précisément, que j'ai obtenu. Mais j'ai décidé de faire mon gap year pour voyager, pour apprendre sur moi-même, pour apprendre sur le monde, et pour apprendre sur l'Europe, etc. Et ainsi, aujourd'hui, cela va faire bientôt 2 mois que je suis en CES, en Corps européen de solidarité, pour une période de 6 mois en tout, en Lettonie, à Tukums plus précisément. Je fais ainsi un volontariat dans le domaine du sport et de l'éducation. Je propose différentes activités, des jeux aux jeunes du village, des activités sportives, mais aussi je propose des cours de cuisine, des cours de français. Voilà en général ce que je fais durant mon CES.
Quel a été ton parcours de vie et comment es-tu arrivé là ?
Depuis mon plus jeune âge, le voyage a toujours été présent dans ma famille. Toujours cette recherche de découvrir de nouveaux lieux, de découvrir de nouvelles cultures, de découvrir de nouvelles personnes, de rencontrer de nouvelles personnes, pardon. Pour vous dire, du collège à peu près la fin du lycée, chaque année, j'ai toujours participé à un voyage pédagogique. J'ai toujours eu cette soif d'aventure, de découverte. C'est ancré en moi, c'est comme ça. Pour la toute première fois, j'ai entendu le mot « service civique européen » dans un Blablacar, il me semble. Puis après, lors de ma licence, une étudiante de 3e année, lorsque j'étais en première année, a décidé de partir à l'étranger après avoir obtenu le même diplôme que moi. Et j'ai ainsi gardé son contact car j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête cette possibilité de pouvoir voyager durant une année. Et puis pour revenir au fait, c'est que cette dernière a également fait un CES. C'est ainsi pour cette raison que j'ai commencé à me renseigner sur cette possibilité de voyager. Par rapport à la destination, c'est vrai que la Lettonie peut être un choix très surprenant pour certains, mais plusieurs raisons à ce choix. Tout d'abord, je souhaitais absolument partir dans un CES qui touche le domaine du sport. Souhaitant m'orienter dans le sport business à la rentrée 2022, je pense qu'avoir de l'expérience dans ce domaine est toujours un atout. Ainsi, il n'y avait pas non plus énormément d'opportunités. J'ai postulé ici, dans ce centre de jeunesse, car j'étais intéressé par ce côté social, avec les jeunes et sportifs, leur proposer des activités sportives, c'est vraiment ce que je voulais. J'ai eu la chance également de voyager dans d'autres pays de l'Est, tels que la Bulgarie, la Grèce, et puis quelques pays ex-yougoslaves, mais les pays baltes étaient vraiment inconnus pour moi, un vrai défi à relever.
Qu'est-ce que tu fais maintenant ?
Alors premièrement, dans le centre de jeunesse, je continue de proposer mes activités sportives aux jeunes, sur une moyenne de 30 à 35 heures par semaine, avec 2 jours off par mois. Mais mes activités en dehors du centre sont toujours reliées au sport. Je cours énormément dans la semaine pour découvrir à la fois le village où je vis. Tukums, c'est à peu près 20 000 habitants. Je fais énormément de balades avec l'autre volontaire. On va souvent au Grand Lac, qui est juste à côté du village. Et je pratique du volleyball aussi, une fois par semaine, avec des Lettons. Et puis les week-ends, j'en profite pour voyager, que ce soit à l'intérieur du pays, mais aussi dans les pays frontaliers.
Comment décrirais-tu ton expérience à l'étranger en 3 mots ?
Alors je dirais enrichissant, dépassement de soi aussi, et surtout surprise. Car ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu t'engages dans un CES, les prochains jours sont des surprises. Toujours des opportunités qui se dessinent à droite, à gauche. Encore ce week-end, par exemple, j'ai eu la chance de faire une traversée de plus de 13 heures en bateau à voile de Riga jusqu'à Roya. Bien sûr, là, c'est l'optimum, mais c'est pour dire que dans un volontariat, il y a plein d'opportunités à saisir et qu'il ne faut pas hésiter quand elles se présentent.
Y avait-il une barrière de langue là-bas ? Et si oui, comment l'as-tu surmontée ?
Bien sûr, que ce soit avec l'anglais ou avec le letton. Il fallait de nouveau se familiariser avec l'anglais. Puis au début avec le letton, c'était assez compliqué d'entendre une langue que tu connais pas vraiment, que tu comprends pas vraiment non plus. Mais entre guillemets, il faut se battre et chercher.